Alphonse Daudet, le bandit Quastana. Le diable soit des préfectures pittoresques, nous disait un jour le baron Bardet. Rien ne s'y passe comme ailleurs, et à moins d'être né dans le pays, les fonctionnaires y sont exposés à d'éternelles mésaventures. Pour ma part, si je faisais métier d'écrire, je voudrais proposer un gros volume avec tout ce qui m'est arrivé d'infortune administrative pendant les 3 ans que j'ai passé en Corse comme conseiller de préfecture. Mais en voici une, entre autres, qui, je crois, vous amusera. Je venais d'entrer en fonction à Ajaccio. Un matin, pendant que j'étais au cercle, plongé délicieusement jusqu'au cou dans les journaux de Paris, le préfet m'envoie par son valet de chambre un mot au crayon. « Venez vite, j'ai besoin de vous. Nous tenons le bandit Quastana. » Oh, j'eus une exclamation de joie et je courus à la préfecture. Il faut vous dire que, sous l'Empire, c'était une très grosse affaire, l'arrestation d'un bandit corse. La colomba de M. Mérimée les avait mises à la mode aux Tuileries. Et quand un préfet était assez habile pour mettre la main sur quelques fameux coureurs de maquis, il pouvait être sûr de passer de première classe, surtout si le journal de la préfecture présentait à l'arrestation d'une façon un peu romanesque. Malheureusement, depuis quelques années, les bandits devenaient rares. Les Corses, civilisant chaque jour, perdaient ses traditions de vendetta. Et si par hasard, dans un canton reculé de Sartène ou de l'île Rousse, un indigène au sang vif se laissait encore aller à jouer du stylet ou de la scopette, il passait vite en Sardaigne et se gardait bien de tenir le maquis, comme on dit là-bas. Cela ne faisait pas l'affaire de notre préfet, vous pensez. Pas de bandit, pas de première classe. Pourtant, à force de chercher, il avait fini par en découvrir un. C'était un vieux sacripant, un nommé Quastana, qui, pour venger la mort de son frère, avait exterminé, dans le temps, je ne sais combien de familles. L'histoire remontait à 1830 ou 1832. Et depuis, Quastana vivait caché dans le maquis, ou poursuit d'abord avec acharnement, il avait fini par être oublié. Seulement, il se tenait sur ses gardes, et lorsqu'à 30 ans de distance, les poursuites recommencèrent, elles n'eurent pas plus de succès qu'auparavant. Dès lors, entre le bandit et l'administration, s'est vue une affaire acharnée de tous les instants. Nous avions pour nous les soldats, les gendarmes, le télégraphe, et Quastana avait les bergers, les charbonniers, et ces inextricables maquis du Monte Rotondo, où les merles de roche seuls pouvaient le suivre. À la préfecture, on commençait à désespérer. Ainsi, vous vous figurez, si ce « nous le tenons » m'avait ravi. Je trouvais le préfet dans son cabinet en conversation intime avec un petit homme à la figure correcte et froide, dont l'expression restait impénétrable sous une épaisse barbe noire qui lui cachait toute la bouche. Un vrai type de paysan corse. Le bonnet de laine, le petit caban en poil de chèvre et la longue paire de ciseaux pendus à la ceinture dont ils se servent pour hacher dans le creux de la main les grandes feuilles de tabac vert. « C'est le cousin de Quastana, » me dit le préfet tout bas. « Il habite le petit village Solensara, au-dessus de Porto Vecchio, et le bandit vient faire tous les dimanches soir sa partie de scopa avec lui. Et dernièrement, paraît-il, ils ont eu une grave discussion au jeu. » Et pour se venger, le drôle me propose de me le livrer, son cousin, alors entre nous. Cet homme a l'air sincère, mais comme je désire faire l'arrestation moi-même, avec autant d'éclat que possible, Il s'agit de prendre nos précautions et de ne pas exposer le gouvernement à une expédition ridicule. Alors pour cela, j'ai besoin de vous, mon cher baron. Vous êtes tout neuf dans le pays, personne ne vous connaît. Et je vous charge d'aller vous assurer des visus. Si c'est bien le vrai Castana qui vient faire le dimanche la partie de ce monsieur. Oui, mais je ne l'ai jamais vu, votre Castana. Le préfet tira d'un portefeuille une photographie mangée de soleil. Tenez, le voici. Il a eu l'impudence de laisser faire photographier à Porto Vecchio l'an dernier. Et pas quand nous regardions la figure intelligente et fine du bandit, l'autre s'était rapproché de nous et nous surveillait du coin de l'œil. Je voyais de temps en temps sa paupière baissée se soulever un peu avec un regard brillant comme un éclair de stylet, vite émoussé par une indifférence apparente ou profonde. « Ne craignez-vous pas, lui demande Dame Nou, que la présence d'un étranger chez vous n'effarouche votre cousin et l'empêche de revenir le dimanche d'après ?» L'homme répondit tranquillement, « Non, non, il aime trop le jeu. D'ailleurs, il y a tous les jours des figures nouvelles. La Solène Sarah à cause de la fonderie. Je dirais que monsieur est venu chez moi pour que je le mène tirer des grives. C'est justement la saison. » Là-dessus, nous convînmes d'un rendez-vous pour le lendemain soir, dimanche, à l'autre auberge de la Solenzala, et il nous quitta sans paraître le moins du monde gêné de son vilain rôle. Derrière lui, le préfet me fit de nombreuses recommandations. « Avant tout, mon cher conseiller, pas un mot de cette affaire à qui que ce soit. Vous m'entendez, à qui que ce soit. Ce pays est plein de chausse-trappe. On nous soufflerait notre bandit. Et j'entends bien me partager avec personne autre que vous le bénéfice et l'honneur de ce joli coup de filet. » J'assurai le préfet de ma discrétion, je le remerciai de la confiance, et nous nous séparâmes, plein de rêves ambitieux, lui se voyant déjà au Conseil d'État, et moi dans une bonne petite sous-préfecture continentale. Le lendemain matin, équipé en chasse de la tête aux pieds, je montai dans la diligence qui fait le service d'Ajaccio à Bastia et parcourt l'île sur toute sa longueur. Pour les personnes qui aiment la nature, c'est le voyage le plus charmant et le plus varié du monde. On trouve tour à tour des champs d'oliviers, comme en Provence, des forêts de sapins, des pics couverts de neige dominant des vallées toutes blanches d'orangers en fleurs. Puis, de temps en temps, la route à un détour laisse voir entre deux rochers un horizon entièrement bleu, la voile latine d'un corailleur en pleine mer et des cactus découpant leurs feuilles métalliques sur un ciel africain. Mais nous autres, dans l'administration, nous n'attachons pas beaucoup d'importance à ces sortes de choses. Et j'avoue que, bien moins préoccupé du paysage que de ma sous-préfecture, j'ai les yeux fermés les trois quarts du chemin. À Bonifacio s'arrêta pour déjeuner. Et quand je remontais en voiture, la tête un peu chauffée par une bouteille de vieux Farzano, je trouvais un compagnon de route dans le coupé. C'était un substitut de Bastia, que j'avais rencontré une ou deux fois aux soirées du préfet. Un gentil garçon, à peu près de mon âge, parisien comme moi, et malin. Il me le prouva bien, l'animal. Nulle part, vous le savez peut-être, l'administration et la magistrature ne font bon ménage ensemble. En Corse, encore moins qu'ailleurs. L'administration réside à Ajaccio, la magistrature à Bastia. Et sur leur hostilité s'accroît de la rivalité des deux villes. Ben bon, deux Parisiens en exil qui se rencontrent n'ont rien à voir à ces querelles de clochers. On oublie le pays où l'on se trouve pour ne s'occuper que de celui qu'on regrette. Bref, mon substitut et moi, nous fûmes tout de suite grands amis. Et le talent, môme délirant la langue, je ne lui cachais pas, au milieu de nos lamentations d'exilés, que je comptais rentrer en France avant peu, grâce à l'affaire Quastana, dont je lui fis la confidence sous le sceau du plus profond secret. Quelle belle chose que la jeunesse! Quand nos substituts descendit au relais de Porto Vecchio, nous commencions déjà à nous tutoyer. Ce petit village de la Solenzara, où j'arrivais sur les 4 ou 5 heures, s'est formé autour d'une magnifique fonderie installée près de la mer, à l'embouchure d'une étroite rivière. Toute une population d'ouvriers, de pêcheurs, de douaniers habite là pendant l'hiver. Mais en été, des fièvres pernicieuses forcent ces pauvres gens à émigrer à 2 lieues plus haut, dans la montagne. Et le dimanche de mon arrivée, le pays était à peu près désert, animé seulement par sa fontaine de fonderie qui ne se repose jamais. Dans le village vide, un petit abbé, tout noir au soleil couchant, promenait son ombre menue, abrité sous un grand chapeau de basilic, comme sous un parasol. Sans savoir qui j'étais, il vint à moi, l'échine souple, obséquieux, fatigant de paroles polies et d'offices de service. Il voulait à toute force m'emmener dîner chez lui, à son précipitaire, comme il disait, avec un accent italien des plus comiques. J'attribuais d'abord l'empressement du saint homme à la joie qu'il éprouvait de voir un habitant de la Solenzara déserté. Mais les gens de l'auberge, où j'avais fini par entrer bien malgré lui, m'apprirent le secret de son obstination. Le petit abbé était très joueur, et quand il pouvait attirer quelqu'un dans une précipitaire, les parties de scopa se prolongeaient bien avant dans la nuit. Que voulez-vous ? Tous les Corses ont la maladie du jeu. À Ajaccio, à Sartène, à Bastia, on est obligé de surveiller les cercles, les cafés. Les jeunes gens s'y ruinent à la bouillotte. Et dans les villages, c'est la même chose. Les paysans sont enragés pour les cartes. Et quand ils n'ont pas d'argent, ils jouent leurs moutons, leurs pipes, leurs couteaux, n'importe quoi, pourvu qu'ils jouent. Et toujours à la scopa. Cependant, la nuit était venue, et Matteo, le cousin de Quastana, n'arrivait pas. J'avais dîné dans la grande auberge, presque vide, d'une assiette de pajoli et d'une grillade de chevreaux, toute sèche et carbonisée. Et par-dessus, un atroce vin du pays, sentant la peau de bouc. Les quelques ouvriers de la fonderie, qui prennent là leur repas, étaient partis depuis longtemps. Je commençais à me trouver très embarrassé de mon personnage devant la curiosité méfiante et questionneuse de l'aubergiste, lorsqu'enfin, Matteo parut. « L'homme est chez moi, me dit-il en portant la main à son bonnet. Si vous voulez venir... » Dehors, il faisait très noir. Un grand vent d'orage apportait les larmes au long de la côte, les secouait tout entière avec un bruit sourd, lourd, d'étoffes mouillées qui s'étalaient en s'éclaboussant. Nous suivîmes pendant près d'une lieue un chemin caillouteux, le lit d'un torrent desséché et plein de pierres arrondies qui se détachaient sous nos pas. Une végétation abondante, laissée par l'eau disparue, envahissait la route déjà si étroite. Des broussailles, des lentisques, des touffes d'absinthe dont l'odeur amère se dégageait au frôlement de notre passage, Je me sentais en pleine Corse sauvage. « Voilà ma maison, » me dit Mathéo en me montrant une petite lumière entre les branches, clignotante comme un ver luisant un soir de tempête. À ce moment, un grand chien se dressa dans l'ombre devant nous avec des aboiements furieux. On eût dit qu'il voulait nous barrer le chemin. « Ici, Broccio ! Broccio !» cria le cousin. Et se penchant vers moi, « C'est le chien des Quastana !» Un animal terrible, qui n'a pas son pareil pour monter la garde. Là, 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 mon vieux Broccio, là, tu nous prends donc pour des gendarmes. L'énorme bête se calma et vint souffler dans nos jambes. C'est un beau Terre-Neuve, à qui son poil entièrement blanc, laineux, épaissement louvé, soulevé, avait valu ce nom de Broccio, Broccio fromage blanc. Il nous précéda avec de grosses gambades dans la maison de Matteo, une espèce de hutte en pierre, percée au toit d'un grand trou, servant à la fois de fenêtre et de cheminée. Deux couchettes de marine tenaient la plus grande place du logis. Sur une table grossière, entourée de tabourets faits de troncs d'arbres mal équarris et rudeux, un orchestre dans un chandelier de bois éclairait toute flamme haletante où d'une foule d'insectes volants et crépitants venaient brûler leurs ailes. Devant la table, une face fine, tanné, rasé de près, de pêcheur italien ou provençal, penché sur un paquet de cartes dans la fumée épaisse du tabac vert. « Cousin Quastana, » dit Matteo en entrant. « Voilà un de ces messieurs de la fonderie qui vient chasser demain matin avec moi. » Il passera la nuit ici, pour être dans le maquis à la première heure. On n'a pas été poursuivi, traqué, 30 ans de sa vie, sans qu'il vous en reste une habitude de méfiance. Les petits yeux noirs du bandit se plantèrent une seconde dans les miens, après quoi, satisfait sans doute de son examen, me fit un grand salut et ne s'occupa plus de moi. D'ailleurs, la partie de Scopa les absorba bientôt, lui et le cousin. C'est bien un vrai jeu corse, cette Scopa silencieuse, en dessous, toute d'astuce et d'espionnage. Je regardais les deux joueurs, l'un en face de l'autre, s'épiant, se guettant, les cartes soigneusement cachées, abaissées en contrebas sur la table, puis relevées tout à coup, entrevues d'un regard rapide qui ne quittait pas l'adversaire. Le vieux Quastana, surtout, m'intéressait à observer. La lumière dormait en plein sur lui. Je reconnaissais la photographie que m'avait donnée le préfet. La veste de calice, les hautes guêtres de cuir bouclées au-dessus du genou. Oh, sûrement, ce que la photographie n'avait pas pu rendre, c'était cette figure couleur de roche, le coup de feu du soleil sur une peau toujours à l'air, la souplesse et la vivacité des mouvements, surprenante chez un homme de cet âge. Puis la voix, cette voix rauque et gourde des gens qui vivent beaucoup seuls et dont la parole s'embarrasse de toutes les rouilles du silence habituel. Le Matteo non plus ne manquait pas de tournure, mais assis tranquillement de l'autre côté de la table, en face de l'homme qu'il allait livrer. Pas le moindre trouble, la moindre hésitation. Je crois vraiment que le drôle avait oublié sa trahison pour ne songer qu'à sa partie. et que l'issue de la SCOPA le préoccupait bien plus que le résultat du guet-apens. Une heure ou deux se passèrent ainsi. J'avais de la peine à me tenir éveillé dans l'atmosphère étouffée de la cabane et les longs mutismes du jeu, coupés d'exclamations monotones. « Dèche, 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 dèche !» De temps en temps, le grand vent qu'il faisait dehors, un sursaut de la lampe, une dispute des joueurs, me forçaient de rouvrir les yeux. Et soudain, un aboiement de bleu de chaud, sauvage, entêté, comme un cri d'alarme, mit toute la cabane sur pied. Le vieux ne fit qu'un bond jusqu'à la porte, sortit d'une minute, puis rentra précipitamment. « Il pile sauté !» dit-il, et sautant sur son fusil, il s'élança dehors comme un chat. Matteo et moi, nous étions encore debout à nous regarder, qu'une dizaine de gendarmes, la carabine au poing, avaient envahi la maison. « Rendez-vous !» Et nous voilà renversés, fouillés, garrottés. Je veux me nommer, dire qui je suis. Personne ne m'écoute. C'est bon, vous vous expliquerez à Bastia. On nous fait sortir à coups de crosse. On nous bouscule dans la descente, les menottes au poing. Puis, au bas de la côte, une voiture cellulaire qui attendait, boîte infâme sans air, dévorée de vermine, nous emporte au grand trot vers Bastia, au milieu d'une galopade de gendarmes et de sabres nus. Tout cet appareil de force pour emmener un conseiller de préfecture. Il était déjà grand jour quand nous arrivâmes à Bastia. Vous voyez d'ici le tableau de mon entrée dans le greffe de la maison d'arrêt, où le procureur impérial, le colonel de gendarmerie, le directeur de la prison, attendaient avec impatience le résultat de l'expédition. Le plus étonné de tous fut encore le brigadier qui m'amenait triomphalement quand il vit ces messieurs s'empresser autour de moi et le procureur impérial m'arracher les menottes lui-même avec toutes sortes d'excuses. « Comment, c'est vous, monsieur le baron? C'est vous que ces imbéciles? Mais d'où vient cette méprise? Comment cela s'est-il fait ?» Alors on s'expliqua. La veille, dans la journée, le procureur impérial avait reçu une dépêche de Porto Vecchio lui signalant la présence du bandit Quastana dans la localité de Salenzara, avec des détails si précis, si affirmatifs. Ce mot de Porto Vecchio fut une révélation. « Mais c'est votre substitut qui vous a envoyé cette dépêche ?»« Oui, tout juste, c'est mon substitut. » Un homme très sérieux, très sûr, oh, j'en savais quelque chose, et qui n'a pas dû m'envoyer ses renseignements à la légère. Mais vraiment, mon cher monsieur, qui aurait pu se douter que vous seriez en partie de chasse dans nos parages, et justement chez le cousin de notre bandit. Enfin, nous avons fait passer une mauvaise nuit. Mais vous avez assez d'esprit pour ne pas m'en vouloir. Vous allez me le prouver en venant déjeuner avec moi. Brigadier, emmenez cet homme. On l'interrogera plus tard. Le malheureux Matteo restait muet de stupeur. Mais ses regards à mon adresse étaient toute une protestation. Je ne pouvais faire autrement que d'expliquer carrément les choses. Prenant donc le procureur à part, je lui avouai que le cousin de Quastana était un espion de la préfecture, qu'il avait promis de nous livrer le bandit, bref, toute l'histoire. Et à mesure que je parlais, la figure du magistrat, tout à l'heure si bienveillante, reprenait son masque de froideur judiciaire. « J'en suis fâché pour la préfecture, » me dit-il d'un petit air sec. « Mais je tiens le cousin à Costana, et je ne lâcherai pas. Il passera en jugement avec deux ou trois bergers, coupables d'avoir livré de la poudre et des vivres aux bandits. Il faut en finir avec ces connivences criminelles qui entravent l'action de la justice. Mais je vous le répète, monsieur le procureur, que cet homme est une créature du préfet. Ah, mais c'est bien pour cela que je le garde, reprit le procureur impérial en éclatant. Je veux une fois pour toutes donner une bonne leçon à l'administration et lui apprendre à ne pas se mêler de ce qui ne la regarde point. Comment? Il n'y a qu'un bandit en Corse, un malheureux bandit? Et vous acharnez à me l'enlever, mais c'est bon gibier, ça. Voyons, monsieur le conseiller, vous qui êtes chasseur, ici un sourire à mon équipement, est-ce que c'est permis, ces choses-là? Je l'ai pourtant dit à votre préfet, c'est moi qui prendrai Castana, ou personne ne le prendra. Il s'entête, eh bien, je vais lui jouer un tour de ma façon. Votre Matteo passera en justice. Naturellement, il se réclamera de la préfecture. Et comme l'affaire fera du bruit, le bandit sera désormais en garde contre son cousin et les chasseurs de griffes de l'administration. Et c'est qu'il le fit comme il disait, ce diable d'homme. Un mois après, la préfecture était assignée. Et nous voilà obligés, le secrétaire général et moi, d'aller réclamer notre espion, de raconter mon aventure en plein tribunal. Oh, vous pensez si l'auditoire s'amusait? Le conseiller de préfecture, voyageant en voiture cellulaire. Oh, bref, l'administration fut roulée sur toute la ligne. Quant à Matteo, le tribunal l'acquitta comme de juste. Mais il ne pouvait plus être bon à rien, maintenant que Quastana était prévenu. Il quitta le pays quelque temps après pour entrer, comme on disait là-bas, dans les chemins de fer. C'est le nom que les Corses donnaient à la police impériale. Pour ces pauvres diables qui n'ont jamais vu de voie ferrée, cela constituait une administration occulte, mystérieuse. Et quand vous demandiez dans les familles, où est Alexandrie? Où est Bastia? Cette réponse un peu vague dispensait de toute explication. Oh, il est dans les chemins de fer.